franceinter.fr.
On n'arrête pas l'écho. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
À la boulette. J'ai fait la boulette.
On parle un peu des grosses boulettes à Bruxelles. L'ancien président de la Commission européenne, Barroso, qui pantoufle chez Goldman Sachs, la banque soupçonnée d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes. Et puis son ancienne commissaire, Kroes, qui aurait oublié de signaler qu'elle aurait dirigé une société offshore aux Bahamas pendant son mandat bruxellois.
Fallait pas l'inviter, hein. C'était pas une bonne idée.
Ah non, ça, c'était pas une bonne idée. Mauvais casting, c'est exactement ça à Bruxelles. Là où s'édictent les règles, les lignes jaunes, les stratégies, nous dit-on, pour l'économie européenne. Problème de recrutement et puis beaucoup plus grave, problème d'état d'esprit. Mais attention, voici la bonne nouvelle. Au poste de Kroes aujourd'hui, à la concurrence, on a l'anti-Kroes. Apple en Irlande, Fiat, Starbucks, Amazon. La commissaire Vestager s'attaque à l'iceberg évasion fiscale. Ira-t-elle jusqu'au bout? Est-elle seule? L'exécutif européen a-t-il tout à fait changé? Bruxelles va enquêter sur le cas Barroso, sur le cas Kroes. Peut-être même que s'il y a faute, Bruxelles va sanctionner. Et nous allons savoir si le message aux entreprises, aux décideurs, aux consommateurs, aux clients est aujourd'hui sincèrement différent.
On est tous assis sur le couvercle d'une marmite qui demande qu'à exploser!
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
C'est samedi, c'est Économie Bienvenue. On n'arrête pas l'écho est réalisé par Coy Nguyen. Jérémy Younes est l'attaché de production de cette émission. Et ce matin, à la technique, Sacha Trop nous accompagne. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Emmanuel Le Chip de BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Vous voulez me dire quelque chose, Emmanuel?
Ah oui, non, parce qu'effectivement, on critique souvent les institutions européennes, leur organisation, c'est pour ça que l'Europe fonctionne mal. Et ben, on voit aussi que les institutions, c'est avant tout les hommes et les femmes qui les font. C'était très éloquent, votre billet, Alexandra.
Ah ben, c'est gentil, ça aussi. Avec vous, qu'est-ce qu'on va faire ce matin avec vous? Ah oui, on va s'occuper de la cascade de chiffres qui nous est tombée dessus. On a eu le cadrage du budget 2017. On a entendu, la gauche a sauvé la sécu. Et puis, on a reçu les prévisions du régime d'assurance chômage. Alors, parce que trop de chiffres tuent l'info, ce matin, avec les débatteurs, on prend les pixels et on fait une photo. Et puis ce samedi, ça va encore vous plaire, Emmanuel. On va parler business sur France Inter avec un invité passionnant, Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, banquier d'affaires. On va avoir son regard sur l'économie africaine et sur les échanges avec les entreprises françaises qui s'endorment en Afrique. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot, une question pour vous ce matin?
Oui, alors deux rapports sur les discriminations cette semaine, beaucoup d'agitation sur la twittosphère et cette question de Serge, est-il bien malin de calculer le coût économique des discriminations?
Est-il bien malin? Très bien, la chronique de Sandrine Foulon, ce sera juste avant 10h. Mais tout de suite, mettez-vous à l'abri, budget, sécu, assurance chômage, gaffe à l'avalanche de chiffres.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Les dépenses de sécurité sociale, c'est 500 milliards. 500 milliards, 400 millions d'euros de déficit, c'est une première. On retrouve là des chiffres qui sont inédits depuis le début des années 2000.
L'horizon du rétablissement complet de l'équilibre des comptes de la Sécu, il c'est plus une utopie.
Il y a un redressement.
Eh bien oui, ça va mieux.
Les prévisions, c'est un art difficile. Nous ne sommes pas sur 1,2 pour 2017.
États-Unis, entre 1,9 et 2,1.
Plutôt 1,9.
1,8% par an.
Plutôt un taux de croissance légèrement au-dessus de 1,5.
Tout ça c'est des chiffres et des débats la mormoineux.
Et là, le 2,1 sera plutôt 2,35.
Quelle est la situation du régime d'assurance chômage? En 2017, 35 milliards de déficit.
De dette.
De dette. Si mon souvenir est exact.
Vous savez bien que ce n'est pas le régime général, mais ce sont les régimes spéciaux.
Attendez.
Il y a un redressement.
Eh bien, oui, ça va mieux.
Et là, le 2,1 sera plutôt 2,35.
Quel maelstrom. On a entendu les politiques Christian Eckert, Marisol Touraine, Nicolas Sarkozy et le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Et puis, on a entendu des économistes, Éric Heyer et Jean-Hervé Lorenzi, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. On va être méthodique hein, pour ne pas se laisser noyer par les chiffres. On commence avec le dossier Sécu. La gauche a sauvé la Sécu, la fin du trou de la Sécu. Christian Chavagneux, d'abord le périmètre, de quoi est-ce qu'on parle avec la Sécu?
Alors, quand on parle de la Sécu, on parle en fait de quatre choses différentes. Il y a les accidents du travail, les maladies professionnelles. Ça, c'est excédentaire déjà depuis un ou deux ans. Vous avez les retraites, hein, c'est quand même, ça nous intéresse au premier chef. C'est un quasi-équilibre en 2015. Ça va être excédentaire cette année. Vous avez aussi la branche famille. Là, il y a un déficit qui est en très très forte baisse. Et Marisol Touraine nous dit ça va être en équilibre en 2017. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, généralement la Sécu, qui est l'assurance maladie, en fait, les médicaments qu'on nous rembourse. Ça, le déficit, il reste assez important. C'est la plus grosse masse des dépenses des quatre. Et là, on nous dit l'équilibre pour 2017. Donc, on se retrouve avec la fin des déficits de la Sécu, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus de dette sociale, parce qu'il y a
ça,
plein
c'est un
de
peu
déficits
sous le tapis, ouais.
Avant. Et donc, il y a encore, à la fin 2015, 150 milliards de dette sociale. Mais la Cour des comptes nous dit, à l'horizon 2019, 120 milliards. Donc, voilà le portrait un peu général.
Emmanuel Le Chypre, est-ce qu'on a eu vraiment une bonne nouvelle avec les chiffres donc de la Sécu cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit retenir?
Bah, les chiffres en eux-mêmes, effectivement, ils sont bons. Hein. Il faut rappeler que on vient quand même d'un trou de 13 milliards en 2012 et que là, on est à un peu plus de 3 milliards. Donc, c'est très bénéfique et on nous promet quasiment l'équilibre pour l'année prochaine. Alors, il y a plusieurs explications. Bah, la première, c'est que d'abord, il y a quand même une petite reprise de l'emploi qui fait que ça provoque des rentrées de cotisations supplémentaires. Côté retraite, Christian l'a dit, c'est positif parce que les réformes successives commencent à porter leurs fruits. Il y a des petites manips comptables hein, quand même, parce que dans tous ces budgets, il y en a un peu. Par exemple, le gouvernement va comptabiliser cette année 700 millions de CSG qui étaient normalement dus en 2015. Il va les compter en 2016. Et puis n'oublions pas que si les comptes de la Sécu se redressent, c'est que mis bout à bout, tous les prélèvements supplémentaires acquittés, alors pas seulement par les particuliers, mais aussi par les entreprises de médicaments, etc., c'est quand même 20 milliards d'euros depuis 2012. Donc, il faut pas s'étonner non plus que les comptes, quand même, soient en assez sensible amélioration.
Oui, c'est ça la leçon. La leçon, c'est quand même, je reviens là-dessus, il y a quand même la dette de 156 milliards. Moi, ça a pas l'air de vous inquiéter trop, non, Christian?
Non, 150 milliards, c'est rien du tout. En plus, la Cour des comptes nous dit que ça va baisser. Donc, c'est, non, mais c'est tout à fait gérable.
On a Emmanuel Le Chypre qui vient de nous quitter.
Mais évidemment, une dette pour lui, c'est toujours une dette publique surtout, c'est toujours un gros problème. Non, c'est tout à fait gérable pour la France. Les bonnes nouvelles, c'est vrai qu'il y a des nouvelles du côté des recettes, mais il y a aussi des bonnes nouvelles du côté, enfin des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles du côté des dépenses aussi. Il faut quand même distinguer hein, la retraite, l'assurance maladie, tout ça. La retraite, je pense que ça y est, il faut arrêter. Il faut arrêter toutes les candidats de droite qui nous disent qu'il faut encore monter l'âge de la... Stop ! On est à l'équilibre, messieurs les candidats de la primaire de droite. On est à l'équilibre entre 93 et 2014. On n'a pas arrêté de faire des réformes, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui commencent à partir à la retraite, qui touchent moins à la retraite que ce que la génération précédente touchait. C'est une rupture historique totale en termes de chiffres. Donc, ça y est, les comptes de la retraite, on les a équilibrés. Il ne faut pas aller plus loin parce qu'on commence à avoir des vieux retraités pauvres, ce qu'on avait complètement fini par éliminer grâce au minimum vieillesse. Et donc là, il y a un petit machin technique à préciser. Quand on dit les comptes de la retraite sont en équilibre et vont mettre excédentaire, il y a un petit machin en plus qui s'appelle le Fonds Solidarité Vieillesse qui, lui, est très déficitaire. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Ce qu'on donne aux retraités pauvres. Et puis, ils prennent la place des chômeurs. Quand les chômeurs n'ont plus de boulot, ils cotisent quand même pour eux. Et là, ça fait quand même un gros déficit qui nous reste. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du chômage, tout simplement. Et donc, les réformes de la retraite, ça a fait quoi? Eh ben, ça a fait que on paie plus pour toucher moins, mais plus longtemps. Donc ça, voilà, on en a le résultat comptable sur les comptes. Et puis quand même, faut pas oublier tous ces seniors qui sont au chômage. Parce qu'on l'âge de la retraite étant repoussé, les gens de plus en plus vieux doivent rester sur le marché du travail. Mais comme les entreprises veulent pas les embaucher, il y a de plus en plus de chômage des seniors, ce qui fait qu'on a pris un peu des dépenses de la retraite qu'on a refilé à l'UNEDIC. C'est aussi ça qui contribue à l'amélioration des comptes pour la retraite.
Bon, alors la retraite, la leçon générale, c'est que Christian, quand même, les réformes paient.
C'est pas aussi rose que ce que Christian dit sur la retraite. Effectivement,
il est pas trop rose, Christian, sur la retraite.
les retraites baissent et que du coup le régime est à l'équilibre, ça montre bien qu'effectivement les efforts qui ont été faits se traduisent par une baisse du niveau de vie des retraités. Mais est-ce qu'on peut juger que c'est satisfaisant? Non, il y a des réformes à faire qui font que si, alors quand Christian dit le problème c'est le chômage, entièrement d'accord, et notamment le problème le chômage des seniors. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'étranger dans tous les pays où on a repoussé l'âge de la retraite? C'est que vous avez mécaniquement en quelques années un changement de comportement des salariés et des entreprises qui font que l'âge réel de départ à la retraite recule lui aussi. Donc la réalité, quoi qu'on en dise, que ce soit à cause du marché du travail ou à cause des réformes, il faudra de toute façon travailler plus longtemps sur la durée de sa vie si on veut assurer la pérennité du système de retraite.
Et quand Christian s'adresse aux candidats de droite et dit « Messieurs, arrêtez de vouloir encore nous repousser l'âge de la retraite », Emmanuel, vous en pensez quoi?
Ah, je pense que c'est une erreur. Il faut continuer à repousser l'âge de la retraite.
Ça sert à rien du tout, Emmanuel. On a l'excédent.
Oui, mais si ça permet de faire travailler...
Aujourd'hui, le déficit était la justification Christian, de la régression sociale. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Les tendances démographiques font que on peut pas se préoccuper de la photo aujourd'hui. Il faut regarder le film qui nous attend.
C'est structurel avec les réformes. C'est ça, mais c'est ça qui est important. C'est que le trou de, enfin, il n'y a plus de déficit de la retraite et c'est pour des raisons structurelles. On a réglé le problème.
Et pour le reste, la situation est peut-être meilleure, mais on voit déjà la tentation qui est de lâcher les cordons de la bourse sur la Sécu pour l'année prochaine.
Vous parlez de l'objectif de dépenses, l'ONDAM.
C'est-à-dire que là, déjà, on a une revalorisation des traitements de fonctionnaires des hôpitaux, 400 millions. Les tarifs de consultation des généralistes revalorisés, plus de 400 millions. Vous avez tous les professionnels de santé qui font la queue au guichet, les hôpitaux publics, 300 millions. Les cliniques qui veulent 250 millions. Les généralistes MG France qui veulent le forfait pour leur fonctionnement versé par la Sécu qui augmente. Donc, allez,
et tout ça, ça va faire combien? Ça va faire combien? Plus 2,1% Emmanuel de dépenses, c'est historiquement bas. Ces 2%, c'est historiquement
mais
bas.
Il faut peut-être aussi dire que si on a réussi à faire des économies sur l'assurance maladie, c'est parce qu'on a sérieusement serré les cordons et qu'à un moment donné, il y a trop de tension. Il y a des gens qui demandent en effet de revoir les économies et de réorienter.
Alors, là, on a vu les retraites, il faut regarder, je pense, d'un peu plus près vraiment les médicaments, ce qu'on appelle vraiment la Sécu. Il y a eu une vraie maîtrise des dépenses, hein, ça c'est clair. Les prix des médicaments ont baissé. Hein. Il y a eu un meilleur contrôle des prix de la part de l'État, plus de génériques de la part de l'État. Et là, vraiment, il y a une politique de droite et une politique de gauche. Contrôle public des prix par la gauche, des remboursements ont fait payer encore plus les ménages par la droite. Il y a eu deux façons de rééquilibrer et là, je pense que on peut faire crédit au gouvernement. Ils ont contribué, parce que c'est pas les seuls bien sûr, mais ils ont contribué à baisser le prix des médicaments par une bonne intervention publique. Pour l'hôpital, on fait des économies à l'hôpital, mais là, c'est parce que ces pressions sur le personnel, c'est parce qu'on les a pas augmentées. Emmanuel dit tout le monde vient au guichet, mais attendez, un boulot d'infirmière, c'est incroyable qu'on les ait pas augmentées, qu'elles réussissent à travailler aussi bien. Donc c'est normal qu'on leur redonne un petit peu aujourd'hui, que les comptes vont un peu mieux. Et puis quand même, toutes les études nous disent qu'il y a un moindre recours aux soins. Il y a quand même des gens pour qui, oui, on rembourse moins parce qu'ils vont pas chercher, ils peuvent pas avoir les dépenses minimales avant qu'on les rembourse.
Donc la faute, oui, Emmanuel.
Non, mais la réalité, c'est qu'on ne traite pas les problèmes. Effectivement, Marisol Touraine avait dit « Je ne serai pas la ministre des déremboursements ». Elle l'a été. Mais les vrais défis du système de santé, franchement, on ne s'en occupe absolument pas.
C'est-à-dire ?
Le fait que, par exemple, regardez ce que dit le rapport des comptes sur les soins dentaires. Les Français sont aujourd'hui en Europe ceux qui se soignent le moins bien au niveau des dents. C'est quoi les grands défis de la Sécu ? C'est des défis... le vieillissement, c'est quand même un défi considérable. Les plus de 80 ans, on sait très bien qu'ils seront deux fois plus nombreux dans les années qui viennent. La moitié touche de l'argent pour des affections longue durée. Comment on va faire pour financer tout ça? On sait très bien que les maladies d'aujourd'hui, ce ne sont plus les maladies infectieuses, c'est les maladies chroniques. Voilà, on sait qu'il y a une révolution technologique qui se prépare. Qu'est-ce qu'on fait pour anticiper tout ça? Rien. Le résultat, c'est quoi? C'est que comme on a été incapable de prendre les bonnes décisions, on a mis tout ça dans les mains des mutuelles, notamment. Mutuelles aujourd'hui qui vivent grassement et qui sont en plus en train de se comporter de plus en plus comme des sociétés d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, vous payez en fonction de votre risque. Ce qui est la négation totale de l'esprit du système de santé français hérité de la guerre. C'est ça le vrai esprit de solidarité. Bon ben... Et donc on est en train complètement de tuer notre système et sa philosophie parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer aux véritables problèmes d'organisation à l'hôpital, sur les gaspillages de médicaments, etc. etc.
Alors là, on a une photo très précise. La santé, on a amélioré les comptes, mais on est en train de tuer l'esprit du système. Christian, un mot là-dessus.
Ouais, un petit mot là-dessus. Je suis d'accord et pas d'accord avec Emmanuel. D'accord, enfin pas d'accord, parce que quand on regarde, quand on dépense de l'argent pour les médicaments, il y a ce que la Sécu nous rembourse, il y a ce que les mutuelles nous remboursent, vient de parler Emmanuel, et puis il y a le reste à charge que nous on doit quand même payer. Le reste à charge aujourd'hui, c'est 8,5% hein, de ce qui est dépensé. C'est-à-dire, c'est le deuxième plus bas d'Europe. Donc vraiment, a priori, les ménages français sont ceux qui sortent le moins de leur poche. Pratiquement tout est collectivisé. Mais une bonne partie, c'est effectivement la Sécu. Mais comme l'a dit Emmanuel, pour en gros 10-12%, ce sont les complémentaires. Et donc, on assiste à quoi? À une privatisation rampante.
Partielle,
en tout cas.
Un désengagement du public.
Et là, on est le deuxième plus haut au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire que vraiment, il faut faire des choses sur les paniers de soins. Pourquoi il y a des médicaments qui sont remboursés à 5% ou à 10%? Soit le médicament, il vous sert à quelque chose et vous le remboursez, soit il vous sert à rien et vous donnez pas 5-7%. Vous voyez bien qu'il faudrait définir un panier de soins. Il y a les contrats responsables pour les mutuelles. Le gouvernement a quand même essayé de dire, ok, vous les mutuelles, on va vous aider d'autant plus que vous choisissez le bon opticien, le bon dentiste, celui qui coûte le moins cher. Donc ça va quand même dans le bon sens. Et puis il y a quand même tout ce qu'il y a à faire par l'hôpital. Et là, il y a des réformes de structure, parce que le fait que Marisol Touraine ait poussé ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait d'être soigné plutôt chez vous plutôt qu'à l'hôpital, ça va aussi dans le bon sens.
On doit encore parler du budget, du cadrage du budget. Il y a un mot des chiffres génétiques. Tu as senti un chiffre, Emmanuel.
On a quand même une dégradation de l'accès aux soins des chômeurs et des pauvres qui est vraiment inadmissible dans un système comme le nôtre. Je vous donne juste un chiffre pour montrer un petit peu cette perversion de l'esprit initial. En 2013, il n'y a plus que 12% des personnes couvertes par les contrats les plus souscrits des mutuelles qui ont payé une cotisation qui ne dépend pas de leur âge. Donc vraiment solidaire. C'était 3 fois plus en 2006, 36%. Donc vous voyez qu'on va de manière accélérée vers un système, j'ose pas dire à l'américaine, mais enfin, sans le dire. Et c'est ça la vraie perversion aujourd'hui.
C'est le manque de débat sur le changement que nous sommes en train de vivre.
Bien sûr.
Et alors, sur le fait que ça doit rester collectif.
Exactement.
Et les mutuelles d'entreprise, le fait que l'employeur abonde, qu'il y a une mutuelle, c'est un progrès ou pas un progrès ça?
Oui, bien sûr, je pense que ça va dans le bon sens, mais ça nous coûte aussi un petit peu, mais ça élargit la couverture sociale par la mutuelle, c'est vraiment bien. Il faudrait pas que les candidats primaires de la droite, je suis désolé, mais c'est eux qui mettent aussi ça dans le débat, nous disent, comme monsieur Alain Juppé, je ne veux pas casser le modèle social français, je veux juste diminuer les dépenses là-dessus, notamment pour la CMU.
Il faut juste quand même aller voir comment se comportent les mutuelles si on veut que tout le monde en ait, ce qui part effectivement d'une bonne intention.
Allez, le budget 2017 maintenant, l'autre gros dossier qu'on a eu sur la table cette semaine. Le cadrage, ça veut dire ce que le gouvernement, ce que Bercy prévoit pour 2017. Ça veut dire les prévisions de croissance, ça veut dire est-ce qu'on respectera ou non le déficit. Qu'est-ce qu'on retient, messieurs, de ce cadrage du budget 2017 qui démarre?
Moi, je veux bien, c'est enfin un budget rusé, quoi. Vraiment, vraiment, ça, c'est le budget qu'il faut. Pourquoi? Parce que la reprise, elle est fragile aujourd'hui, hein. Donc, il faut la consolider. Est-ce que l'État peut aider à consolider la reprise? Ben oui, il va augmenter les dépenses. 9 milliards, hein, la prime à l'embauche, les emplois dans la police, la défense, etc. On va augmenter les profs, un peu plus d'argent pour les communes et pour l'investissement des communes. Tout ça, ça va faire de l'emploi, du pouvoir d'achat, de la relance. C'est exactement ce qu'il faut au moment où on a une petite reprise qui est un peu fragile. Bien évidemment, si vous donnez d'un côté et que vous reprenez de l'autre, ça sert à rien. Donc, comme disent les économistes, si les nouvelles dépenses sont financées tout de suite, ça sert à rien. Il faut laisser creuser un peu le déficit. Est-ce qu'on peut trouver un truc qui ne creuse pas le déficit, voire qui continue à le faire réduire, et pourtant qui va moins impacter sur l'économie? Ils ont trouvé. C'est pour ça que je dis que c'est rusé. Ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils vont repousser à l'année prochaine des prélèvements. On devait avoir une baisse d'impôt sur les sociétés. Ouais. On l'a transformé en baisse de charges. Donc, les entreprises en 2017 vont l'avoir tout de suite, la baisse de charges.
Mais ce sera en 2018.
Un crédit d'impôt en 2018. Voilà. On a trouvé le truc, mais qui est génial. On va baisser le déficit, on va relancer l'économie, et pourtant, on a réussi à pas trop piquer sur l'économie. Donc, tout ça va contribuer à relancer. C'est bon, c'est le bon pari. Et notamment, si ça marche, eh ben, ça paiera en 2018, la petite excès de dépenses 2017. Enfin, un budget rusé.
Alors, et les chiffres, c'est 1,5, je donne quand même le cadrage, c'est 1,5% de croissance prévue en 2017 et un déficit à 2,7%, donc sous la barre fatidique des 3%.
On va pas s'attarder sur le budget lui-même, on sait très bien que c'est un budget qui sera fortement amendé, qui que soit le vainqueur de la présidentielle, par un collectif budgétaire à l'été 2017, même si c'est la gauche qui est au pouvoir. Donc les petites astuces, Christian les a citées, je cite aussi pour un petit millier de grandes entreprises, l'anticipation anticipation du paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, prof, 400 millions.
Rusé, a dit Christian.
Juste quand même, 1,3 milliard de prélèvements encore non documentés, mais une petite ligne comme ça, plus 1,3 milliard de hausse d'impôts, alors on sait pas qui ça va toucher. Et puis juste pour terminer sur le cadrage budgétaire, c'est vrai qu'on nous dit, on prévoit 1,5% de croissance l'année prochaine, comme cette année, donc ça paraît raisonnable. Autant cette année, c'était vraiment très raisonnable, parce qu'on aurait même pu faire presque 2% de croissance s'il n'y avait pas eu les attentats, le Barnum El Khomri, les inondations, etc.
Ça, c'est la prévision d'Emmanuel, autant, il n'est pas content, il avait prévu 2, on va faire 1,5.
Franchement, on va faire 1,5 et on aurait pu les faire, avec sans tout ça qui coûte 1,5 point. L'année prochaine, c'est plus compliqué parce que je vous rappelle que cette bonne croissance quand même de cette année, c'est l'effet de la baisse des taux, de la baisse du pétrole, de la baisse de l'euro. Et ça, on ne les a plus en termes de coups de fouet. Donc les 1,5% du budget de l'année prochaine, ils sont pas si faciles que ça à atteindre.
Alors, un dernier mot sont les chiffres de l'UNEDIC. Qui me dit, on a eu les prévisions, j'ai promis aux éditeurs qu'on disait un mot. Qu'est-ce qu'on retient des prévisions de l'UNEDIC, Emmanuel? Pour vous.
On retient que ça conforte l'idée que les prévisions de croissance pour l'année prochaine sont peut-être un peu trop optimistes.
Et que le chômage donc baisserait jusqu'à fin 2016, mais augmenterait à partir de 2017. Exactement.
Et rappelons encore que si on prend les cotisations UNEDIC et ce qui est redonné, l'UNEDIC est excédentaire. Merci.
On s'arrête là. Je vous signale que la semaine prochaine, mon invité sera Christian Eckert, le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. On en reparlera donc. À présent, l'économie, comme elle se passe ailleurs, et l'on reparle là encore des paradis fiscaux, je vous emmène au sud.
¿Cómo están todos? Bienvenidos.
Bonjour Angèle Savino.
Bonjour Alexandra.
Angèle, vous êtes correspondante de France Inter en Amérique latine. On parle avec vous d'évasion fiscale vue des pays du Sud. Il y a quelques heures, c'est une petite nation, l'Équateur, qui s'est fait entendre à la tribune de l'ONU. L'Équateur pousse de nouveau cette idée d'une organisation intergouvernementale sous l'égide de l'ONU pour lutter à l'échelle de la planète contre l'évasion fiscale. Et Angèle, il y a cette idée d'une organisation internationale parce qu'au fond, pour l'heure, Nord et Sud ne réagissent pas de la même façon.
Oui, écoutez, le problème, c'est que les pays riches ne font pas face à la même urgence que les pays du Sud. Donc, il est logique que le groupe des 77 à l'ONU ait une position plus radicale. Les pays du Nord demandent en effet plus de transparence, mais abolir les paradis fiscaux, ce qu'explique le ministre des Affaires étrangères, ça, c'est une décision que le Premier Monde n'est pas encore prêt à prendre. Alors, rappelons que 30% du PIB de l'Équateur, c'est-à-dire 30 milliards de dollars, serait caché dans les paradis fiscaux. Cet argent pourrait notamment servir à créer des emplois. Il y a eu un tremblement de terre cette année en Équateur et la reconstruction représente 3,5% de son PIB. Et selon le président équatorien, 32 millions de personnes en Amérique latine pourraient sortir de la pauvreté si l'argent caché dans les paradis fiscaux était imposé.
Angèle Savino, vous avez justement obtenu une interview exclusive du président équatorien Rafael Correa. On l'écoute.
Les paradis fiscaux sont un des principaux dangers.
Les paradis fiscaux sont les principaux dangers pour nos économies et pour notre démocratie. Je crois que c'est une aberration du capitalisme, une des expressions les plus extrêmes du capitalisme sauvage. Aller dans ces paradis fiscaux où le capital n'a pas de visage, n'a pas de responsabilité, n'a pas de patrie. C'est évident qu'il faut interdire ces pratiques, et encore plus pour des personnes qui prétendent diriger un pays. Comment peut-on croire un candidat à la présidence de la République qui a des investissements dans les paradis fiscaux, mais qui dit dans le même temps qu'il veut créer des emplois dans le pays? Si tu veux créer des emplois, il faut que tu rapatries ton argent.
Rafael Correa, le président équatorien, qui veut lutter à l'intérieur même de son pays contre l'évasion fiscale, Angèle Savino.
Oui, alors, dans une lettre adressée aux citoyens équatoriens, Rafael Correa a proposé l'adoption d'un pacte éthique qui va prendre la forme d'un référendum avec cette question. Êtes-vous d'accord pour que la détention d'actifs ou de capitaux dans des paradis fiscaux soit interdite à quiconque veut participer à une élection populaire ou assumer une charge publique? Et Rafael Correa conclut sa lettre avec une belle phrase de l'ancien président uruguayen Pepe Mujica: s'ils aiment tant l'argent, qu'ils fassent des affaires, mais pas de la politique.
Une belle phrase, au nord comme au sud. Angèle Savino, correspondante de France Inter en Amérique latine. Allez, Christian Chavagneux, Emmanuel Lechypre, on finit avec un coup de cœur ou coup de gueule, comme vous voulez, Emmanuel.
Oh, allez, moi, un petit rayon de soleil dans un monde agricole qui souffre pas mal, plus 20% pour les ventes de produits bio au premier semestre. Vous avez 21 nouvelles fermes bio qui se lancent chaque jour aujourd'hui. Donc voilà, C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé.
Ouais, c'est un vrai virage.
Un vrai virage.
À venir dans la prochaine demi-heure, l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, le président de l'association Africa France. Messieurs les débatteurs, je vous salue. Mais avant cette interview de Lionel Zinsou, une question post-COP21, une question surprenante. Le recyclage est-il déjà une industrie en danger? Parce que pour recycler, tout le monde est d'accord, c'est le principe. Mais au final, qui paye la note?
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter, Alexandra Ben Saïd.
Pour visiter l'usine, il faut s'équiper. Donc on me donne un gilet jaune fluo, une charlotte, une casquette et des surchaussures.
Bonjour, Raphaël Jomotte. Je suis responsable développement recyclage pour Plastipack. Chaque fois que vous mettez une bouteille de plastique dans le bac jaune, il y a une chance sur trois qu'elle arrive ici pour qu'elle soit recyclée. Et on refait une bouteille qui a les mêmes caractéristiques qu'une bouteille neuve.
On y est. Notre reporter Sophie Delpoint a enfilé sa tenue et la voilà avec son micro dans cette usine de recyclage, dans le sillage des bouteilles plastiques. En France, une bouteille sur deux seulement est recyclée et tout le problème aujourd'hui, c'est que les industriels sont en difficulté. Il y a les ambitions, il y a le discours sur la transition énergétique et puis il y a le baril de pétrole à 46$, à pas cher. Et le plastique, ça vient du pétrole. Vous allez voir l'équation économique, ça ne peut pas marcher pour le moment. On retourne donc avec Sophie Delpont dans l'usine de recyclage, c'est près de Beaune, en Bourgogne.
Alors là, on va à quel endroit ?
Alors, on va aller là où on reçoit les matières premières. Alors, les matières premières, elles viennent des centres de tri où votre bac jaune va pour être trié et où on va séparer les différents matériaux.
Et là, ici, vous avez combien d'employés vous faites quel chiffre d'affaires?
On a 130 employés et on fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est le plus gros site de recyclage en France de PET.
PET, c'est quoi précisément?
Polyéthylène terephthalate. C'est ce que vous utilisez tous les jours sur votre table avec de l'eau minérale dedans, avec des sodas. On revend à la tonne et on est obligé de revendre au même prix qu'un matériau vierge. Alors, le matériau vierge, il est lui directement lié au prix du pétrole. Et si on regarde les courbes du pétrole les dernières années, on est passé de plus de 100 euros à moins de 30 euros, le baril de Brent. Et donc, on se retrouve avec des valeurs extrêmement fluctuantes. Et moi ici, j'ai toujours le même nombre de personnes sur le site qui font toujours le même nombre de tonnes. Ben, j'ai pas les mêmes variations de coûts en fait. Quand le Brent baisse de 30%, je dis pas, allez, hop, 30% du personnel dehors. Donc ça, c'est pas possible.
Bonjour, Sophie Delpont, journaliste à France Inter.
Bonjour, Arnaud Roland, responsable RSE, Coca-Cola Entreprise.
On est en ce moment sur le site de l'usine Plastipack, près de Beaune. Vous êtes client de cette entreprise. Quel est l'intérêt pour Coca d'avoir des bouteilles recyclées ?
Alors aujourd'hui, on utilise un tiers de plastique recyclé dans toute la production de nos bouteilles plastiques en France. Et on le fait parce que c'est un élément majeur de notre stratégie de réduction de notre empreinte carbone, puisqu'on a pour objectif de réduire d'un tiers cette empreinte d'ici à 2020. Et réutiliser la matière, c'est un élément important pour faire baisser le carbone de nos produits.
Au niveau des coûts, pour vous, est-ce que c'est rentable que d'acheter ces matières recyclées ?
Alors, c'est une stratégie de long terme chez nous. Donc, utiliser du recyclé, c'est vraiment, dans le cadre de notre stratégie développement durable, très lié à notre empreinte carbone.
Vous avez suffisamment de matières recyclées aujourd'hui à acheter en France ou vous en manquez? Vous en achetez aussi ailleurs pour votre production française?
Aujourd'hui, on a très clairement un problème de gisement qui met en tension cette industrie et qui oblige cet industriel à aller chercher des bouteilles ailleurs qu'en France.
Allez, on continue la visite avec Raphaël Jomotte. Nous arrivons à la dernière étape, celle où les bouteilles, triées et lavées, sont broyées sous forme de granulés.
Allez, on suit.
Au niveau du prix, en ce moment, compte tenu des cours des matières premières, est-ce que vous êtes obligé parfois de vendre quasiment à perte ?
C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On préfère arrêter. Pour être tout à fait clair, dans certains cas, on préfère ne pas produire que vendre à perte. Ça a été extrêmement difficile, surtout les deux dernières années, où, compte tenu du cours des matières premières, vierges, premières neuves, certains de nos clients se sont séparés du PET recyclé ou ont diminué leur utilisation. Donc, plutôt que de vendre à perte, autant ne pas produire. Au moins, on ne donne pas la fausse impression que c'est possible de le faire. Non, c'est pas possible de le faire. Donc, on n'entretient pas de business où on perd des sous. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, la rentabilité, elle s'est écroulée, en fait, en quelques années. Donc, il faut imaginer que quand on construit un business plan sur un cours de matière vierge qui est autour de 1300 euros la tonne et que quelques années après, en un court temps, on parle d'une échelle de 5 ans, donc même pas la durée d'amortissement d'un équipement. Au bout de 5 ans, le prix sur lequel vous étiez basé a diminué de plus de 30% en gros. évidemment, ça a un énorme impact sur votre activité. Donc aujourd'hui, pour lutter contre ça, il y a deux voies. C'est collecter plus. Donc il faut qu'à la maison, les gens collectent et trient plus pour qu'il y ait plus de matière, de manière à ce qu'il y ait un peu moins de spéculation autour de ces matériaux. Et d'un autre côté, il faut travailler la qualité. Donc Eco-Emballage travaille beaucoup aujourd'hui sur l'amélioration de la collecte et du tri en France pour nous donner des matériaux qui soient plus propres, plus purs, qui aient un meilleur rendement. En fait.
Je m'appelle Nicolas Garnier, je suis délégué général d'Amorce, l'Association nationale des collectivités pour la gestion des déchets.
Pour recycler les bouteilles en plastique, qui paye quoi ?
Alors, en fait, quand vous achetez une bouteille d'un soda américain, sur le prix du soda, vous payez de l'ordre de 1 centime d'euro. Et cette petite contribution va aller dans un éco-organisme. Et ensuite, ce centime va être reversé en grande partie aux collectivités territoriales pour qu'elles achètent des bacs, pour qu'elles fassent tourner des bennes, pour qu'elles fassent fonctionner des centres de tri. Il faut le dire aussi avec beaucoup d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion des déchets dans notre pays, c'est plus de 150 000 emplois. Donc la bouteille plastique à collecter sélectivement et à trier coûte à peu près 1 à 1200 euros la tonne. Et quand on essaye de la revendre, on arrive à la revendre aux environs de 150 euros la tonne à 200 euros la tonne. Donc vous voyez que le compte n'y est pas. Et en plus de ça, avec la baisse des prix du pétrole, ce prix baisse. Nous, ce que l'on craint aujourd'hui, c'est que ce soit les collectivités locales qui payent l'effort de tri des nouveaux plastiques et donc les impôts locaux qui augmentent. Et on aura du mal à dire à l'habitant, tu as de mieux trier, on augmente tes impôts. Et ça, nous le refusons catégoriquement. Il faut savoir que trier coûte plus que de ne pas trier. Juste pour vous faire peur, si on était amené à trier et collecter sélectivement tous les emballages plastiques, ça coûterait 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. 1 million de tonnes multiplié par 1 000 euros la tonne. Si demain, on devait, comme le veut la ministre, mettre en place des nouveaux centres de tri, l'ADEME, l'Agence de l'environnement, évalue à 1 milliard d'euros d'investissement, les investissements à faire pour mettre en place ces nouveaux centres de tri. Et Eco-Emballage nous dit, ben nous on va vous aider à hauteur de 150 millions d'euros. Ça veut dire que 850 millions d'euros devront être dépensés par qui ? Par les collectivités territoriales. Donc une nouvelle fois, on nous dit qu'il faut faire des efforts sur le recyclage, en particulier sur le recyclage des plastiques. Donc il faut faire des nouvelles installations. Mais c'est vous, les collectivités territoriales, qui les paierez, ces installations. Donc les impôts locaux.
Comment soutenir cette filière industrielle ? La FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage, propose l'instauration d'une taxe carbone conséquente.
Jean-Philippe Carpentier, je suis président de la FEDEREC, la Fédération du Recyclage. La vraie problématique que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on compare un prix de matière issue du pétrole à un prix de matière recyclée. Or, on sait que lorsqu'on utilise de la matière recyclée, on va économiser de l'énergie et on a aussi des tonnes de CO2 émises nettement moindres quand on utilise le recyclé par rapport à la matière vierge. Et cette valeur qu'on appelle les externalités, on n'arrive pas à la valoriser en euros et à pouvoir l'intégrer dans un prix de vente qui permettrait d'adapter notre prix de matière recyclée par rapport à la matière vierge.
Et comment faire pour rétablir un équilibre, une concurrence un peu plus, on va dire, loyale ?
La piste qui est pour moi la plus intéressante, mais elle est compliquée parce qu'elle est mondiale, c'est d'avoir enfin une vraie valeur du CO2 émis. Aujourd'hui, quand les entreprises émettent du CO2, il y a une taxe carbone qui existe, mais elle est très faible et donc elle n'a pas d'impact suffisant pour dire je modifie mon mode de production parce que quand je prends de la matière vierge, ça me coûte trop cher en termes de taxe carbone. Des travaux sont entrepris par le gouvernement, notamment par le ministère de l'écologie, donc par Mme Royal, qui a missionné une mission là-dessus. Et ce qui en ressort de cette mission, c'est qu'il faudrait à terme que la taxe carbone soit aux environs de 50-60 euros la tonne pour arriver d'ici une vingtaine d'années à 100 euros la tonne. Aujourd'hui, on est à 7 euros, donc le chemin est encore long. L'enjeu vraiment pour la matière recyclée, c'est de pouvoir continuer à la fabriquer, à la produire en France ou sur le territoire européen. Aider cette industrie à rester en France et ne pas partir sur des horizons un peu plus exotiques, de façon à ce que lorsqu'on aura un prix du pétrole qui remontera, inévitablement ça va remonter, on puisse avoir de l'emploi local, territorial, qui soit chez nous et qui crée de la valeur ajoutée. Il est urgent de se mobiliser et de faire en sorte qu'on puisse durablement avoir de l'industrie en France.
Le recyclage, pourquoi ça ne marche pas mieux, encore du chemin avant l'économie circulaire. C'était le reportage de Sophie Delpont.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Ça vient de se terminer à Paris, les Rencontres Africa 2016, environ 1500 entreprises africaines, françaises. Ce matin, avec mon invité, nous parlons avenir et intérêts partagés. Bonjour Lionel Zinsou.
Bonjour.
Premier ministre du Bénin, de juin 2015 à mars 2016, vous êtes redevenu le banquier d'affaires que vous avez à peu près toujours été. Président de l'association Africa France, vous êtes un homme clé des relations économiques entre notre petit pays et ce continent de plus d'un milliard d'habitants, grand comme trois fois l'Europe à peu près. Lionel Zinsou, pour décrire la position des entreprises françaises en Afrique, leur part de marché, vous dites, et c'est très fort, c'est la mort douce. Que se passe-t-il ?
Je crois qu'il faut faire attention à bien prendre la mesure de la vitesse de la croissance africaine. C'est vrai que la croissance africaine a été beaucoup niée en Europe, et plutôt entreaperçue, puis vraiment clairement vue par les pays émergents, par la Chine, par l'Inde, par le Brésil, mais aussi par la Turquie, mais aussi par la Corée, et pas par l'Europe. Et donc, la croissance des échanges entre la France et l'Afrique, c'est un rythme calme de 4 ou 5% par an. Et la croissance des importations de l'Afrique, c'est quelque chose entre 10 et 20% par an. Donc, c'est une chose que de ne pas voir la croissance de l'économie africaine pendant 20 ans, mais c'est une chose plus grave de ne pas s'apercevoir qu'elle a un rythme exceptionnel, et notamment en termes d'insertion dans les échanges mondiaux. Et donc, c'est vrai, j'ai dit parfois, faire attention parce que la mort lente n'est pas beaucoup plus agréable que la mort subite. C'est-à-dire, on peut, parce qu'on croit tous les ans un peu, ne pas s'apercevoir qu'on perd de la part de marché. Mais au fond, il y a quelque chose de tout petit peu plus positif, c'est qu'en termes d'investissement, par contre, la France est très active, elle a un stock de capital installé, comme diraient les économistes, qui est très important. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, il y a pas seulement Total et Lafarge et Danone et Castel, il y a vraiment dans tout le tissu, absolument dans tous les secteurs, en Afrique et dans toute l'Afrique, il y a des investisseurs français qui sont installés depuis longtemps et qui ont une expansion très forte. Et donc, il faut quand même pas regarder une faiblesse française à travers le fait qu'on perdrait des parts de marché à l'exportation. Il faut regarder aussi le fait que quand on investit sur place, on importe moins. Si vous voulez, si vous faites vos Renault à Tanger au Maroc, et maintenant vos Peugeot à Kenitra au Maroc, vous allez importer moins de Renault et moins de Peugeot, parce que vous allez les fabriquer sur place. Et donc vous avez quand même cette dynamique française de l'investissement en Afrique, qui elle est en fait très impressionnante.
Et en même temps, vous voulez dire aux chefs d'entreprise, on le comprend, il faut y aller, il faut vous battre, il y a des appels d'offres, vous ne répondez même pas, ça vous l'avez vécu, je crois, au Bénin.
Oui, mais d'ailleurs, quand on a créé la Fondation Africa France, qui est cette fondation d'entreprises africaines et françaises, ensemble, qui essaye d'échanger directement entre elles, le président Ouattara avait dit « Je ne vois pas les entreprises françaises dans les appels d'offres de la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire est en croissance presque à deux chiffres maintenant. Depuis plusieurs années, elle est dans un rattrapage incroyable. Et les entreprises françaises sont-elles assez présentes ?» C'était exprimé par les chefs d'État, les chefs d'État eux-mêmes. Donc c'est aussi un appel « Participons ». À ces appels d'offres. N'ayons pas peur parce que le niveau de risque de cette économie continentale est un niveau de risque beaucoup moins fort que ce que pensent les entreprises et le niveau de rentabilité est beaucoup plus fort.
Il y a des mythes.
Ah oui, bien sûr. Il reste. Si vous voulez, le préjugé. Il n'y a pas de croissance en Afrique, elle stagne, la pauvreté, la corruption, la guerre, les migrations, etc. Cette image-là, si vous voulez, elle n'existe plus dans la tête des grands décideurs économiques. Ce qui est clair maintenant, c'est 20 ans de croissance à 5%, et l'Europe, entre 0 et 1, sait que 5% de croissance, c'est un effet de surchauffe, et qu'en fait l'Europe a besoin de servir cette croissance, d'être présente, d'exporter, d'investir, parce que c'est la deuxième croissance après l'Asie.
En même temps, Lionel Zinsou, je vous entends, mais on parle de l'instabilité politique. Là, on voit le Gabon,
La
République démocratique du Congo.
Le Gabon est un pays très très important et qui, moi, m'est très cher. Mais c'est un pays qui a 1 800 000 habitants sur 1 200 000 d'habitants. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention au fait qu'on annule parfois des réunions qui ont lieu à Johannesburg parce qu'il y a un foyer d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria. Mais il y a 5000 kilomètres entre les deux. C'est un continent qui fait trois fois l'Europe, comme vous l'avez rappelé, en termes de superficie. Ce n'est pas un pays. Et donc l'instabilité politique, si vous voulez, nous, Africains, nous ne disons pas il y a de l'instabilité au Kosovo, nous allons annuler nos investissements en Grande-Bretagne. Mais le Kosovo est plus près de la Grande-Bretagne que le Bénin du Kivu. Cette dimension de l'Afrique, il faut la prendre. Donc oui, il y a des foyers d'instabilité, oui, il y a des conflits.
Oui, il y a des relations avec les politiques, mais... des réseaux. On pense toujours à Vincent Bolloré, Martin Bouygues. On se dit, bah, ces entreprises-là, elles prospèrent parce que... ces hommes-là ont des réseaux.
Oui, mais vous voyez, on évoque là une Afrique du précaré, en se disant il reste des réseaux un peu particuliers. Mais vous voyez, le Bénin, ça a 10 milliards de PIB, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, 30, mais le Nigeria, 450 milliards de dollars. Donc il faut faire justice de ces clichés qui portent sur de toutes petites choses anecdotiques, très très local et très partiel, et regarder au fond l'image d'ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, ça quand même, ça a progressé. L'idée qu'il y a de la croissance en Afrique, et que l'Afrique participe aux échanges internationaux, que désormais elle est dans les chaînes de valeur mondiales, comme on dit, c'est-à-dire on fabrique des morceaux de cockpit d'Airbus, on fabrique des moteurs d'avion, on fabrique des choses qui sont souvent de haute technologie. L'idée aussi que l'Afrique peut être première, pionnière, par exemple sur les paiements par téléphone mobile, l'Afrique est première, et l'Afrique maintenant a développé des logiciels qu'elle cède en Europe contre royalty. Donc l'Afrique est en train de devenir, dans certains domaines innovants, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, des télécommunications, première dans certaines niches. Et ça, c'est très très important, parce que du coup, les gens vont aussi en Afrique pour l'innovation. En fait, on commence à avoir une Afrique 2.0 tout à fait attirante à cet égard.
Lionel Zinsou, dans les contrats, il y a souvent un volet emploi très fort. Évidemment, je pense aux migrations. Le fond du problème, c'est que dans l'intérêt de l'Europe, l'Afrique doit se développer. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien un problème qui paraît insoluble, vu d'Afrique, c'est le chômage.
Non, le problème du chômage en Afrique, il est assez particulier. C'est, comme vous l'avez vu en Tunisie, c'est tout à fait capable de provoquer des révolutions. C'est les jeunes formés et qui n'ont pas d'emploi. On est dans la situation inverse de l'Europe. Plus vous êtes formé, plus vous êtes au chômage. Pourquoi ? Parce que nous avons une économie encore extrêmement informelle, qui propose encore très peu d'emplois aux gens qualifiés. Et donc vous avez des gens qui sont des exclus, mais qui sont parfaitement connectés, parfaitement conscients, et c'est d'ailleurs eux qui parfois choisissent la voie de se trouver un avenir dans la migration. Et ça, si vous voulez, le scandale, c'est pas que notre jeunesse ne rentre pas sur le marché du travail. En fait, le secteur informel en Afrique peut représenter, comme c'est le cas dans mon pays, le Bénin, jusqu'à 90% de l'emploi. 90%. Et donc c'est des emplois informel. Mais quand vous avez des gens qui sont formés, ils ne veulent pas d'un emploi informel, ils veulent un emploi formel. Alors la structure de l'économie est encore très peu formelle, très peu faite de grandes entreprises. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, il y a de plus en plus de PME et de start-up innovantes, si vous voulez, mais pas au rythme qu'il faut, vu la croissance démographique. C'est très dangereux socialement, ça, parce que vous avez des exclus qui sont à un niveau de conscience et de capacité d'action considérable. On craint aussi la radicalisation de cette jeunesse-là. Donc ça, c'est pas simplement, si vous voulez, le problème des Africains. C'est vrai que les partenaires de l'Afrique peuvent rendre un service très important en nous facilitant l'emploi des plus qualifiés. Sinon, on a effectivement un risque terroriste, un risque migratoire qui est non négligeable.
En même temps, Lionel Zinsou, que dites-vous à ceux qui s'angoissent de voir des grands groupes créer des usines? Je pense à Renault, à AXA, qui créent des centres d'appel. Que dites-vous à ceux qui disent, bah oui, mais si on crée de l'emploi en Afrique, on en prend en Europe?
Alors c'est très 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 important de dissiper absolument ce raisonnement. C'est un raisonnement simple, et d'ailleurs c'est un raisonnement qui est utilisé par les populistes. Si vous voulez, l'Afrique donne des atouts de compétitivité à la France, et vice-versa. Et ça, c'est très important. Prenez un exemple. Quand on monte des Renault à Tanger, on fait de la valeur ajoutée chez tous les sous-traitants automobiles français. Et on a une dynamique qui va permettre à Renault de faire 400 000 véhicules à Tanger, d'avoir une part de marché considérable sur tout le marché africain. Et je vous assure que c'est à plus de la moitié de la valeur ajoutée française et des emplois français, de l'assemblage au Maroc, et grâce à ça, une part de marché qui s'ouvre, où Renault va reprendre des parts de marché sur Toyota, sur Hyundai, et donc l'Afrique donne des instruments de compétitivité à la France, et la France peut parfaitement donner des instruments de technologie, de qualité, de formation à l'Afrique pour que l'un et l'autre aillent plus vite. C'est très gagnant-gagnant. Et dans le domaine de l'énergie, vous allez le voir, ça va être la révolution, un peu comme dans les télécoms. Vous allez voir que la France va gagner énormément, l'Europe va gagner énormément, à un développement de l'énergie renouvelable, à une électrification de masse qui va avoir lieu en Afrique, là, dans les 5 ans, Et c'est là qu'on verra, si vous voulez, que les deux ensembles sont complémentaires et qu'on peut créer des emplois des deux côtés du monde.
Lionel Zinsou, le président d'Africa France, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, vous revenez sur ces deux rapports concernant les discriminations au travail avec cette question de Serge, un tweeto. Hein. Ont-elles vraiment un coût économique?
C'est en tout cas le sens du rapport de France Stratégie remis au gouvernement ce mardi. Si on arrêtait, Serge, de discriminer des candidats, si on réduisait les inégalités d'accès à l'emploi et aux postes qualifiés, notre économie ferait un sacré bond en avant. Nous gagnerions 7 points de PIB, c'est-à-dire 150 milliards d'euros. Les auteurs de l'étude ont mesuré les écarts de situation en emploi inexpliquée entre des personnes d'une même tranche d'âge ou d'un niveau de qualification équivalent. Ils ont mis au point des scénarios. Imaginez ce qui se passerait si ces personnes rattrapaient le retard. Eh bien, c'est la réduction des inégalités que subissent les femmes qui créerait le plus de richesses. Sans oublier les hommes descendants d'immigrés africains ou maghrébins qui ne sont jamais les premiers promus. Penser que freiner les discriminations créera plus d'emplois est évidemment contre-intuitif. Même si l'entreprise choisit le candidat autrefois fois discriminé, le nombre de postes, lui, reste limité. On est toujours préféré à quelqu'un d'autre. France Stratégie ne raisonne pas comme ça. L'étude croit à un effet vertueux sur le long terme. Ne plus gâcher les talents aurait une vertu. Des chercheurs ont estimé qu'aux États-Unis, l'accès des femmes et des noirs aux postes occupés par des hommes blancs serait à l'origine de 15 à 20% de la croissance du pays depuis les années 60.
Bon, Sandrine, les économistes vont sans doute débattre de la méthodologie, mais est-ce qu'il faut forcément lier discrimination et coût économique?
Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie, a pris soin de préciser qu'il fallait lutter contre les discriminations parce qu'elles contrevenaient au principe d'égalité et causaient de la souffrance. Cette semaine, le bilan d'un appel à témoignage du défenseur des droits rappelle opportunément que 60% des répondants ont été souvent, voire très souvent, discriminés à l'embauche ces 5 dernières années à cause de leur origine. Les candidats maghrébins témoignent de préjugés attachés à leur supposée religion musulmane. Les personnes perçues comme noires déclarent être réduites à la couleur de leur peau. Serge, on a tous envie de croire qu'une entreprise qui se comporte bien aura de bons résultats. L'inverse est malheureusement vrai. Associer discrimination, coût et rentabilité économique peut être contre-productif. C'est en quelque sorte demander aux personnes handicapées, aux femmes, aux immigrés de faire la preuve de leur performance. Ce sont des risques que pointe l'économiste Hélène Périvier ou la politiste Réjane Sénac. Demain, si l'on se rend compte que combattre les discriminations coûte de l'argent, qu'il vaut mieux finalement que les femmes restent à la maison pour faire baisser le chômage, que ferons-nous? Le seul consensus qui vaille, c'est de continuer à identifier, quantifier les discriminations et à lutter contre.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, posez-lui vos questions sur le site franceinter.fr à la page de l'émission. Vous pouvez aussi nous réécouter et nous regarder.